Si je devais raconter l'histoire de Jésus, je crois que nous serions encore là ce soir. Il y a tellement de choses à dire. Mais je souhaitais simplement qu'on lise un passage qui se trouve dans Luc, chapitre 23, versets 35 à 43. Luc 23, versets 35 à 43. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre, en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit « Jésus, « souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus est sur la croix. Il a été condamné comme un vulgaire criminel et il est compté parmi les malfaiteurs, comme il est dit dans la prophétie. Il n'y a pratiquement rien à espérer dans une situation pareille. Il n'y a que trois croix. Il n'y a qu'une mort lente et agonisante à attendre. Les apôtres ont fui. Judas est sur le point de se pendre à cause du remords. Et il n'y a que quelques disciples devant la croix, perplexes et remplis de tristesse. Les ténèbres vont bientôt s'abattre sur tout le pays. Et dans une situation, je dirais aussi pathétique, aussi horrible, il y a le larron qui prononce une parole de foi, qui dit « Jésus, souviens-toi de moi dans ton règne. » Et ce qui est assez exceptionnel dans cette histoire, c'est que ce larron ne voit pas Jésus, je dirais, dans la splendeur de ses miracles, n'est-ce pas? Il ne le voit pas multiplier les pains pour nourrir toute une foule. Il ne le voit pas guérir des paralytiques ou des boiteux. Il ne le voit pas non plus entrer dans Jérusalem pour être acclamé. Mais on voit qu'il est plutôt raillé. Jésus est méprisé. Jésus est rejeté. On se moque de lui. Les soldats se moquent de lui. Et dans une situation pareille, le larron dit « Souviens-toi de moi dans ton règne. » Il le voit mourant et il lui demande la vie. Il le voit sur la croix, mais il voit aussi son trône. Je sais que j'ai déjà dit ça, mais je le redis parce que il y a une parole que Paul a prononcée, que j'aime bien, qui dit « Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. » Et je dirais que ce matin, nous sommes comme le larron sur la croix. Au-delà des choses visibles, au-delà de la croix qu'il voyait, c'est surtout le trône de Christ, c'est surtout son royaume, son règne qu'il contemplait. Et ce matin, nous nous souvenons de la mort du Christ, nous commémorons sa mort, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça que nous voyons uniquement ce matin. Nous voyons aussi, comme le larron, le trône et le règne de Christ. Nous savons qu'il vit. Parce que si nous n'étions pas convaincus de cela, nous ne serions pas là ce matin, n'est-ce pas? Nous sommes là ce matin parce que nous savons que Jésus vit et parce que nous contemplant son règne. Alors pensons à cela, pensons à ces choses, rappelons-nous de l'amour de Christ, mais aussi du fait qu'il a été ressuscité, qu'il a été élevé et qu'il a été glorifié. Et la gloire de Christ est éternelle. La croix était momentanée, la croix qui était visible, mais la gloire de Christ est éternelle. Prions. Père Céleste, nous voulons te dire ce matin, et te dire combien nous te sommes reconnaissants pour l'amour de ton Fils. Merci, Père, pour l'espérance qu'il nous donne et parce qu'il est source de toute consolation. Père Céleste, nous voulons nous rappeler de cet acte. Nous voulons nous rappeler que Jésus-Christ est allé librement sur la croix, qu'il s'est volontairement sacrifié pour nous, que, Père, tout ce qu'il a enduré, c'est par amour pour nous. Père, nous te prions que tu puisses bénir cet instant de méditation, de commémoration, que Père, tu puisses bénir nos liens et que tu puisses bénir ce pain également, Père, qui représente le corps brisé de ton Fils sur la croix. Et c'est au nom de ton Fils que nous te prions. Amen.
Merci Raymond pour tes paroles qui sont toujours touchantes et émouvantes. Mais tu sais que je ne suis pas le seul qui n'est pas encore à la retraite. Il y a un mois, j'étais à Londres, je traversais une rue et puis, comme toujours, en Grande-Bretagne, en tant qu'Européen, on a tendance à vouloir que les Anglais font tout à l'envers. Hein. Et puis, en traversant la rue, en fait, j'ai regardé du mauvais côté. Et brusquement, j'ai entendu, quand j'étais pratiquement au milieu de la rue, j'ai entendu un bruit de moteur et un coup de frein très violent, et comme un appel d'air, un vide d'air autour de moi. Et puis j'ai eu le temps d'ouvrir les yeux du bon côté cette fois-ci, et juste de me protéger. Il y a un bus, un de ces double-decker à deux étages qui venait de planter les freins. J'avoue que j'étais sur le point d'appréhender le choc et j'ai senti ma vie tout à coup rétrécir dramatiquement. Et moi j'étais encore sous le choc au milieu de la route et le conducteur baisse sa fenêtre et me dit la prochaine fois. Et ça m'a donné à réfléchir et ça m'a fait penser à un verset dans la Bible qui dit dans Jacques chapitre 4 verset 14, il nous dit « Qu'est-ce que votre vie ?» Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La vie est courte et des fois elle se raccourcit dramatiquement. Comme dit l'Ecclésiaste, l'homme, en chapitre 8:8, l'homme n'a aucune puissance sur le jour de la mort. L'homme n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Et pourtant, on n'aime pas y penser. On n'aime pas y penser à ces choses-là. Mais il y a un dicton populaire qui dit pourtant, il y a deux choses sûres dans la vie, c'est les impôts et la mort. Mais quand même, on n'aime pas y penser. Alors, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que la décomposition de nos cadavres? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Ça, c'est le sujet qu'Adam m'a demandé de traiter ce matin. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Alors je me suis dit, ça va être un message très court, je vais dire oui, et je vais aller m'asseoir. Et finalement, je pensais qu'il ne serait pas très content si je faisais ça. Et il m'a dit, pour justifier son titre, il m'a dit, mais tu sais, c'est un sujet d'actualité. Sans blague, un sujet d'actualité. En fait, c'est un sujet qui a toujours été d'actualité. Et on le sait, dans toutes les civilisations, ça a été un sujet qui angoissait les gens, qui préoccupait les gens. Chez les Mésopotamiens, on parlait du pays sans retour. Ensuite, les Égyptiens, qui ont été les grands précurseurs de l'immortalité de l'âme, ont inventé des techniques pour embaumer les corps qu'encore aujourd'hui, on n'arrive pas tout à fait à comprendre. Puis les Grecs et leurs philosophes se sont énormément préoccupés de la vie après la mort, de l'immortalité de l'âme. En Asie aussi, les sages du Tibet nous ont laissé des témoignages sur des récits d'expériences de quasi-mort, hein, etc. Au cours des générations, des civilisations, aux quatre coins de la Terre, ça a été toujours un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, comme toujours, les hommes et les femmes cherchent à répondre à cette question. Y a-t-il une vie après la mort? Ils cherchent, comme dit Paul dans son discours à Athènes, devant l'aéropage, ils cherchent Dieu en tâtonnant. Ils cherchent à répondre à cette question. Ils cherchent à comprendre ce qui les attend. Peut-être vous vous rappelez du livre qui est sorti dans les années 70 qui s'appelait « La vie Après la vie. Succès phénoménal, des millions de copies vendues. Il y a toujours des foules qui s'amassent aux conférences qui ont à voir avec des sujets ésotériques, qui ont à voir avec des sujets sur l'au-delà. Mais l'autre jour, en marchant en ville, j'ai vu sur une belle surface de béton, j'ai vu quelqu'un qui avait sprayé un message beaucoup plus dramatique que « Y a-t-il une vie après la mort ?» C'était écrit « Y a-t-il une vie avant la mort ?» Et en fait, je pense que ça aussi, c'est un sujet d'actualité. Mais ce n'est pas ça dont je vais parler, Adam. C'est aussi un sujet d'actualité parce que je pense que si on n'arrive pas à une conviction sur la vie après la mort, alors peut-être que la vie avant la mort n'a pas de sens non plus. Et peut-être qu'il n'y a pas une vie avant la mort si on n'a pas cette conviction de ce qui nous attend après. Alors, y a-t-il une vie après la mort? Est-ce que la Bible nous en parle? Oui, la Bible nous en parle et la Bible nous a même laissé un évangile pour nous en parler. Et j'aimerais vous lire à ce sujet-là quelques paroles de Jésus. Jésus en a beaucoup parlé de la vie et de la vie éternelle, comme vous savez. Il a dit ces versets en Jean 11, verset 25. Il nous a laissé cette bonne nouvelle. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc on voit qu'il y a une vie avant la mort qui perdure après la mort. Une vie avec Christ, une vie sans séparation. Alors est-ce qu'il y a des exemples de résurrection dans la Bible? Alors évidemment il y a l'exemple de Christ, vous me direz. Mais y a-t-il d'autres exemples? Alors, on se rappelle peut-être des cas de figure où Jésus, pour attester son autorité, sa puissance, a fait ressusciter quelqu'un, notamment Lazare, comme vous vous rappelez, le frère de Marthe et Marie. Et puis, il a aussi confié cette puissance, cette autorité à ses apôtres. Et Pierre, dans les Actes, fera ressusciter Tabitha, cette femme qui avait de la charité et qui faisait beaucoup de bonnes œuvres pour les autres. Pierre lui dit « Lève-toi » et elle se réveille alors qu'elle était autopsiée morte, un petit peu comme Lazare était considéré mort. Mais ça, ce sont des récits de retour à la vie. Est-ce qu'il y a des récits de gens qui franchissent finalement la mort et qui vont dans l'au-delà? Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que le Nouveau Testament nous en offre quand même un ou deux. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 16, versets 22 à 24, et on lira d'ailleurs d'autres versets par la suite. Luc 16, verset 22. « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. » Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père, Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et puis au verset 26, juste après, il est dit, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Donc ça, c'est un témoignage, un des témoignages les plus précis qu'on a dans la Bible sur l'au-delà. Et on voit qu'il y a déjà une distinction entre là où va le riche et là où va le pauvre. On voit qu'il y a une distinction entre deux mondes après la vie. Mais dans 2 Corinthiens, on a aussi un autre passage qui nous parle un petit peu de cette vie après la mort. 2 Corinthiens 12, versets 2 et suivant. Paul dit aux Corinthiens, qui apparemment lui posait pas mal de questions à ce sujet, il leur dit « Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne le sais, était-ce hors de son corps, je ne le sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors la vie après la mort est une réalité, mais de notre vivant ici-bas, je pense qu'elle restera un mystère. Et je pense que Dieu l'a voulu ainsi, et je pense que c'est bien ainsi. Maintenant, est-ce que la Bible parle de notre résurrection, de notre vie après la mort? Alors, il y a des passages assez généraux. Par exemple, dans Jean 5, 28, il est dit « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Si on est dans les sépulcres à ce moment-là. Ou en Actes 24, 15, « Il y aura une résurrection des justes et des injustes. » 1 Corinthiens 15, 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Tous, justes et injustes, à la même heure. » Nous serons ressuscités. Alors évidemment, de tout temps, les chrétiens ont voulu en savoir plus, se sont préoccupés sur ces notions de l'au-delà, et c'est pourquoi ils ont souvent posé toutes sortes de questions. Et on peut se demander, on est appelé à ressusciter, mais quel genre de vie nous attend après? Alors, je pense que contrairement à ces exemples de Tabitha et Lazare qui ont été réanimés finalement et qui ont continué leur vie, il faut s'attendre à quelque chose de différent. La Bible fait une distinction en effet entre le corps et l'esprit. Par exemple, dans Ecclésiaste 12, verset 9, il est dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc une distinction entre notre corps qui redevient poussière et l'esprit. Et puis Jésus a aussi interpeller ses interlocuteurs en soulignant cette différence. Il a dit, en Matthieu 10, 28, il a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Donc il y a bien une distinction. Ce n'est pas une résurrection, une réanimation. Au sujet de sa propre résurrection, on sait que Jésus est apparu sous différentes formes après sa résurrection. On sait aussi, Luc nous dit que nous serons semblables aux anges, ce qui laisse penser qu'on sera pas, on n'aura pas le même aspect. Paul, finalement, lui, c'est encore lui qui nous donne le plus de renseignements dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 15, ce fameux chapitre qui parle de la résurrection. Et je crois que là, j'aimerais quand même vous lire quelques versets. 1 Corinthiens 15... Tout le chapitre parle de la résurrection, mais lisons le verset 35 et suivant. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils insensés? Ce que tu sèmes ne reprend vie s'il ne meurt. Au verset 42, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Verset 50 à 52. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruptibilité n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Donc je pense que tous ces passages nous montrent à quel point nos corps seront différents. Ça peut être une bonne nouvelle d'ailleurs. Ceux qui se trouvent trop minces ou trop gros, ou trop vieux, ou trop ridés, ou trop ceci, ou trop cela, ou handicapés, eh bien, et la bonne nouvelle, c'est que nous aurons des corps glorieux qui seront infiniment plus beaux que nos corps actuels, qui sont dégradables. Nos nouveaux corps seront indégradables. Alors, quelle sera la séquence des événements? De nouveau, la Bible laisse planer un certain mystère, mais il y a des indications. Ce sujet, d'ailleurs, en soi, mériterait d'être le sujet de plusieurs études. On pourrait passer des jours là-dessus. Mais il y a un passage qui nous donne un bon aperçu. C'est dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 16, où Paul écrit « Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc on voit que d'abord les morts en Christ ressusciteront. Et ensuite les chrétiens vivants seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans le ciel. Peut-être qu'à ce moment-là de mon sermon, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce qu'il délire ou bien, vous vous rappelez peut-être pas ces passages que vous avez lus 100 fois déjà dans la Bible, mais ces passages sont tellement incroyables, tellement fantastiques, qu'on a de la peine à les accepter et à les visualiser. Mais ça me fait penser à des tas de choses dans notre vie. On est un peu des apôtres Thomas, finalement. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, on a de la peine à le croire. Mais je pense que si on se replace il y a 100 ans ou 200 ans, il y a 200 ans, disons, Genève, au moment de l'occupation des troupes napoléoniennes, et on avait parlé d'électricité, les gens nous auraient pris pour des fous. Il y a des tas de choses qui ont une puissance phénoménale qui sont invisibles. Même le vent, finalement, est-ce qu'on peut voir le vent? On voit que l'impact du vent sur les choses autour de nous. Est-ce qu'on voit l'électricité? Pas vraiment. Mais l'électricité a une puissance phénoménale. Et puis si on avait dit, on avait parlé de la radioactivité il y a encore 100 ans, à quel point la radioactivité peut tuer des millions d'êtres humains très rapidement. Et si on avait su il y a 50 ans qu'on pouvait s'envoyer des messages avec images d'une montagne, des Alpes, à une ville, à New York, en des fractions de secondes, on nous aurait pris pour des fous. Alors aujourd'hui, il y a des tas de choses qu'on lit dans la Bible sur la vie après la mort, sur l'au-delà qui nous échappe, hein, parce qu'elles nous paraissent invraisemblables. Je crois qu'il faut qu'on dépasse nos limitations d'être humain, notre logique cartésienne, parce que je pense que plus la science progressera, plus on s'apercevra que la Bible est très vraisemblable. Mais il ne faut pas attendre ces moments-là, parce que ça pourrait être trop tard, hein. Alors, il y a des tas de phénomènes qui sont fantastiques, hein, qui nous échappent et qui sont finalement sous le contrôle de Dieu. Alors, une vie pour qui? Est-ce qu'il y a une vie pour tout le monde la même après la mort? Non. Ça, c'est une tromperie dont on entend parfois parler, qui est propagée par toutes sortes de mouvements religieux. Non, il y a en fait deux genres de vie. Et Jésus a été clair, il a dit... L'Évangile, chapitre 8, verset 51. « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc l'éternité avec le Seigneur est pour ceux qui auront gardé sa parole. Comme on a vu que ceux qui vivent et croient en Christ auront une vie éternelle. Et on a vu qu'il y avait une résurrection des justes et des injustes. Donc il y a une distinction. Et en fait, cette distinction, elle est très claire. Jésus nous a donné le tarif assez rapidement. Dans son évangile, par exemple, Matthieu 25, verset 31, il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. » Mais les justes à la vie éternelle. Donc il y a une distinction. C'est pas le même genre de vie pour chacun. Il y a un moment donné où il y a le point de non-retour. On a vu avant dans l'histoire du riche et du pauvre, ils n'arrivaient pas à passer de l'autre côté. Il y en a... le riche qui était dans le feu éternel n'arrivait pas à passer de l'autre côté, dans le royaume des cieux. Alors, en conclusion, je pense que la réalité de la vie après la mort, en fait, je pense qu'elle est ancrée en nous, déjà à notre naissance. Je pense que c'est quelque chose pour lequel nous avons une compréhension intuitive, instinctive. Mais il est vrai que dans notre société où tout est matérialisé, où on refoule finalement la mort, on écarte le sujet, on écarte les mourants finalement, puisqu'ils vivent souvent à l'écart. Même à Genève, l'hôpital de gériatrie est en banlieue, près de la prison, dans les coins où on se promène pas trop souvent. Eh bien, on a tendance à oublier le sujet de la mort, on le refoule. Mais en réalité, et je pense que toutes les cultures et traditions au cours des siècles et des millénaires qui sont préoccupées de ce sujet, je trouve intéressant que très souvent, il y a des dénominateurs communs. Il y a la question du jugement qui ressort dans beaucoup de cultures, il y a la question de la rétrospective, il y a une vie au-delà. Je pense que nous sommes faits pour comprendre ça, mais il faut l'accepter. Et je pense que c'est d'autant plus difficile aujourd'hui dans une société où on maquille en fait les apparences de la mort et les générations ne vivent plus ensemble. Alors l'évangile, lui, dans tout ça, est une bonne nouvelle parce que il nous permet finalement d'avoir confiance sur l'au-delà. Il nous permet de regarder la mort en face. Il nous permet de comprendre pourquoi nous sommes ici, de comprendre que ce n'est qu'un passage, qu'un voyage. Nous sommes des voyageurs ici sur Terre. Un petit peu comme si vous allez voir un spectacle et vous êtes dans la file d'attente. Ce qui compte, ce n'est pas la file d'attente, c'est le spectacle magnifique après. Et notre chance, c'est que c'est un royaume qui nous attend et un royaume qui n'aura pas de fin. Un royaume éternel. Alors, l'évangile pourrait aussi nous amener à nous réjouir de la mort. Vous vous rappelez sans doute des versets de Paul qui dit « La mort m'est un gain ». Et je pense qu'en fait, en tant que chrétien, on devrait non seulement accepter et pouvoir regarder la mort les yeux en face, mais même la regarder avec sérénité et peut-être même avec joie dans la mesure où on a combattu le bon combat, dans la mesure où on a fait ce qu'on pouvait pour notre prochain et pour le Seigneur. Alors justement, l'histoire du pauvre et du riche continue en Luc 16, verset 27. Le riche dit « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. » Il dit « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alors, peut-être, c'est un message qui peut paraître dur, mais d'un autre côté, les opportunités de connaître la vérité abondent dans nos vies, et les opportunités aussi de partager cette vérité avec d'autres abondent aussi. Mais il y a un moment qui viendra où on aura passé le point de non-retour. Il y a un moment ou un jour où le bus ne freinera pas, que ce soit pour nous ou pour nos proches. Et à ce moment-là, ce sera trop tard. Alors comment vivre finalement si, en tant que chrétien, on réalise cette réalité de la vie après la mort et qu'on en prend conscience et qu'on peut même arriver à s'en réjouir? Eh bien, que faire? Paul donne une réponse à ça. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, déjà aujourd'hui, on est né de nouveau dans le baptême, on est ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc la vie et la mort, la vie après la mort, sont un mystère. On a une ébauche de réponse donnée à ça dans le Nouveau Testament, mais j'espère que ces passages nous ont tous confortés que c'est une réalité à laquelle on croit, on a toujours cru depuis le jour de notre baptême au moins, mais je pense qu'il faut faire un effort important pour se rafraîchir, rafraîchir nos convictions, en particulier étant donné la vie et la société dans laquelle on est. Alors, s'il y a un message qu'il faut retenir aujourd'hui, s'il y a une phrase à retenir de ce message, j'espère que ce sera celle-là que vous vous rappellerez. Jean 11, 25, « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Merci.